Alors, salutations à tout le monde. Le sermon que je vais vous donner aujourd'hui, c'est sur l'histoire, mais avec un but très précis, de voir la main puissante de Dieu dans l'histoire. Je vais vous parler d'événements historiques en rapport avec la prophétie biblique. La prophétie biblique, c'est les choses annoncées d'avance par Dieu dans sa parole et qui se produisent inévitablement, parce que ce que Dieu annonce, il le réalise. Question. Est-ce que l'histoire humaine, c'est simplement une suite d'événements sans signification, sans rapport avec rien, au hasard, ou si, comme on va le voir, ça s'inscrit exactement dans un dessein, dans un plan défini, établi et dirigé par le Tout-Puissant lui-même? Et c'est ça. C'est ça qui s'est passé dans l'histoire, et c'est ce qui va se passer dans l'histoire que nous allons vivre très bientôt concernant les grands événements qui sont en train de se développer pour marquer la fin de cette société actuelle, là où nous sommes rendus. Il y a un des phénomènes qui s'est répété dans l'histoire et qui nous enseigne beaucoup, et c'est l'ascension, le déclin et la chute des empires. Ça s'est répété tout au long de l'histoire pour différents empires, différentes nations. Ils ont occupé des postes dominants, il y a eu déclin et ensuite chute. Ça a été le cas, par exemple, vous vous rappelez, de l'ancien Empire romain, il y a longtemps, qui était pourtant d'une puissance extraordinaire et qui a été effacé de la carte complètement. Il a suivi le même scénario que les grands empires. À notre époque, même chose. Et nous, on a été témoins depuis le début des années 1800, lorsqu'on regarde l'histoire, on n'était pas là, bien sûr, nous-mêmes, mais lorsqu'on regarde l'histoire, à partir des années 1800, de l'émergence, par exemple, d'un tout petit groupe d'îles, les îles britanniques, qui est devenu l'Empire britannique. Un empire très puissant, duquel on disait, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des colonies tout autour de la planète. Dieu a permis qu'ils s'élèvent en tant qu'empire mondial, des colonies tout autour de la Terre. Mais ils ont été en déclin, et maintenant, ils approchent la chute avec la sortie, avec le Brexit, et tout ce que ça implique. Les situations se coincent, ils sont en situation économique extrêmement difficile. Les grandes entreprises et les banques fuient actuellement l'Angleterre et s'en vont vers l'Europe, et l'Angleterre va se retrouver dans la position d'échec. Ça s'en vient. Ensuite, on a vu l'apparition d'un autre empire, l'Empire des États-Unis, l'Empire américain, qui a connu ses heures de gloire, qui a connu des heures de grande prospérité et d'abondance. Et ça semble encore ça lorsqu'on regarde de façon générale actuellement, alors que la situation est en train de se détériorer totalement de l'intérieur. Aujourd'hui, les États-Unis déclinent rapidement, de plus en plus, et ils sont de plus en plus perçus négativement à travers le monde. Ils perdent leur prédominance. Les gens s'éloignent d'eux. Les nations ne veulent plus faire affaire avec eux. Et les États-Unis s'en vont vers la chute qui a été annoncée par Dieu dans sa Bible. Ce qui arrive, c'est que Dieu lui retire actuellement sa protection. Dieu lui avait assuré, selon les promesses bibliques encore, je ne m'y reporterai pas, mais vous pouvez faire votre recherche là-dessus, c'est formidable. Dieu lui retire sa protection, Dieu lui retire en même temps ses bénédictions. Tous les bienfaits qui lui avaient été accordés pour qu'elle devienne une puissance aussi magnifique, aussi grandiose. Dans ces villes, maintenant, la criminalité augmente, la violence augmente, ils ont été frappés et ils sont frappés et ils seront frappés encore davantage par le terrorisme. Il y a des tempêtes dévastatrices comme jamais que Dieu permet pour affaiblir cette nation parce qu'il a été annoncé que si elle se détournait de Dieu, et c'est ce qu'elle fait, qu'ils allaient en subir les conséquences et que Dieu allait leur retirer sa protection et ses bénédictions. En plus de ça, actuellement, vous avez l'apparition de conflits raciaux graves, de conflits sociaux qui augmentent, des divisions, des soulèvements à l'intérieur de la nation américaine, en plus de la pauvreté qui s'étend. Bon, maintenant, je retourne dans l'histoire. Là, je vous donne les deux qu'on a pu constater en lisant l'histoire ou en étant témoins nous-mêmes, l'Angleterre et les États-Unis. Retournons maintenant dans l'histoire au premier grand empire mondial, l'empire babylonien. Lui a tombé en 539 de notre ère. C'était une civilisation puissante. C'était le roi Nebuchadnezzar qui était en charge. Il a bâti la magnifique porte d'Ishtar et les jardins suspendus dont vous avez entendu parler, mondialement célèbres. L'une des sept merveilles du monde antique. C'était un royaume, un empire sans précédent. Mais après la mort de Nebuchadnezzar, la puissance babylonienne a décliné rapidement. Et en 539, les conditions de son écroulement étaient réunies. Elle avait eu époque de gloire, de domination, elle avait eu déclin, et maintenant c'était le temps de sa chute, aux mains des Perses et des Mèdes, sous l'empereur Cyrus, qui a pris cette ville, Babylone. Et les historiens, dont Hérodote et Xénophon, des historiens grecs, ceux-là, rapportent que Cyrus est parvenu à entrer dans une ville imprenable à l'époque, parce que Babylone était entourée d'une forteresse sans précédent. Mais ce qui arrivait, c'est que la ville était bâtie au-dessus de l'Euphrate. La ville était alimentée par le fleuve de l'Euphrate qui passait au centre de la ville. Et comme protection, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait bâti des portes de fer, des portes d'acier, qui descendaient un peu dans l'eau du fleuve et qui masquaient l'entrée des eaux. Sinon, il aurait pu être attaqué facilement. Alors, c'était imprenable. Mais Dieu avait décidé que le temps de la fin de Babylone était arrivé. Et voyez comment Cyrus est parvenu à pénétrer dans la capitale qui était puissamment fortifiée en détournant astucieusement les eaux de l'Euphrate qui coulaient sous les énormes portes d'airain à travers la métropole. L'armée de Cyrus, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a creusé en amont un canal près des eaux du fleuve pour détourner le débit vers un grand bassin qui était vide pas loin. Alors, ce qui est arrivé, c'est que très rapidement, les eaux de l'Euphrate ont baissé et que de nuit, l'armée de Cyrus a pu rentrer par le fleuve. Les soldats avaient de l'eau, on disait jusqu'aux genoux à peu près, sous les portes d'airain. Parce que l'eau ayant été baissée, c'était accessible par en dessous des portes, ce qui n'était pas le cas quand l'eau était à son plein niveau. Formidable. Et l'armée de Cyrus a pénétré silencieusement dans la ville pour prendre les Babyloniens de surprise. À un moment bien précis, parce que Nebuchadnezzar, mais son petit-fils, Belshazzar, était en train de donner un festin, on pourrait dire plutôt une orgie. Et quand on voit qu'est-ce qui s'est passé, vous pourrez lire le chapitre, c'est qu'il y avait grande fête à l'intérieur de la ville, donc il se préoccupait de fêter. Il n'y avait jamais eu de danger d'être pris, donc il n'y avait pas de raison, en principe, de s'inquiéter plus ce soir-là que d'autres soirs. Ils ont fait la fête. Mais à un moment donné, Dieu a averti que la récréation était terminée, que le royaume allait être détruit. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a envoyé une main qui a écrit sur la muraille concernant Belshazzar et son royaume. Allez à Daniel chapitre 5. Ça vaut la peine qu'on regarde ça. Daniel chapitre 5. Lisons à partir du verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main, en parlant de Dieu, qui intervient dans l'histoire, il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Ah, il y a une main qui est apparue, ça devait être effrayant à voir, il y a une main sans qu'il y ait personne au bout, qui écrivait sur le mur. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La main invisible dans l'histoire ». La main invisible dans l'histoire. Et ça, ce que je vais vous donner, ça démontre comment Dieu est intervenu à différentes occasions spécifiques au cours de l'histoire. Alors, donc, le verset 24, « C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Ce qui était écrit, c'était « Comptez, comptez, pesé et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Et le prophète Daniel avait été sorti de sa prison pour expliquer au roi qu'est-ce que ça voulait dire, ces mots-là. Comptez, Dieu a compté ton règne. C'est Daniel qui lui a parlé. Et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voyez-vous comment c'était précis? Même quand il a interprété l'écriture sur la muraille, ça disait qui était en train d'entrer à ce moment-là sous la muraille de la ville. Formidable. Dieu, c'est la main invisible dans l'histoire. Regardez le verset 30 et 31. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara de son royaume, étant âgé de 62 ans. Darius, c'est un des officiers principaux de Cyrus, l'empereur. C'est pour ça que son nom apparaît ici. Alors, Dieu, c'est la main invisible. Il s'était servi de l'empire babylonien d'abord pour punir la nation d'Israël. C'est pour ça que Daniel, un prophète de Dieu, se trouvait captif là, parce que Israël avait été amené en captivité à Babylone. Alors donc, la ville a été attaquée par surprise et les Babyloniens ont perdu. C'est intéressant parce que, allez voir dans Ésaïe 45, Ésaïe chapitre 45, la chute de Babylone, elle avait été annoncée d'avance par Dieu. Ésaïe 45, on va lire les versets 1 et 2. Il avait même nommé d'avance le nom de l'empereur qui serait en charge des Mèdes et des Perses et qui allait renverser Babylone. Dieu est puissant. Quand je vous dis que c'est sa main dans l'histoire qui règle les choses selon son plan. Versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus. Pourtant, ce n'était pas un Israélite, là. C'était le roi des Mèdes et des Perses. Mais il a disposé son cœur et il l'a guidé pour accomplir son plan. Et c'est ce que Dieu fait. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Donc, on voit que Dieu a annoncé longtemps d'avance que Cyrus allait vaincre des nations devant lui. Regardez comment il précise ensuite, comment l'annonce faite par Dieu était précise. Et pour relâcher la ceinture des rois, et pour ouvrir les portes, et dans la version King James, c'est les doubles portes de Babylone. Et regardez comment c'est plus précis plus loin. Afin qu'elles ne soient plus fermées, les doubles portes qui fermaient l'entrée par le fleuve, il dit, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, « je romprai les portes d'airain. » Est-ce que c'est assez précis? C'était des portes d'airain qui fermaient l'accès à la ville par le fleuve. Dieu avait annoncé d'avance que Cyrus allait venir et qu'il allait rompre les portes d'airain. « Je briserai les verrous de fer. » Donc, je te donnerai accès. Et après, il dit, « Je te donnerai des trésors cachés » et ainsi de suite. Les portes d'airain, la main invisible de Dieu. Et regardez juste un peu avant. Ésaïe 44, le verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'elle soit fondée. Et c'est sous Cyrus que le décret a été donné par l'empereur où les Israélites ont pu retourner dans la ville de Jérusalem qui avait été détruite pour rebâtir la muraille et rebâtir le temple. Ça avait été annoncé d'avance par le Tout-Puissant dont la main invisible intervient dans l'histoire à des moments particuliers pour accomplir son plan. Et la chute de Babylone a été un événement décisif dans l'Antiquité. Après ça, ça a été l'Empire Médo-Perse de Cyrus qui a régné. Ils ont été puissants un bout de temps, ils ont connu le déclin, et après ça, ça a été leur chute, comme tous les empires humains. Et après 200 ans, c'est Alexandre le Grand qui a pris le pouvoir. Et ça a été l'Empire gréco-macédonien à ce moment-là qui a pris la place comme troisième domination mondiale. Et ils ont subi le même sort. Domination, déclin et chute. Comment? Par les légions romaines. Parce que le temps était venu à ce moment-là pour que l'Empire romain prenne la place, le quatrième empire mondial, dont on voit la description dans le songe de Nebuchadnezzar, là. Et l'Empire romain aussi, parce que c'est l'histoire de tous les empires humains, l'Empire romain est aussi tombé plus tard. Et quand on regarde dans la littérature, vous avez le grand chef militaire romain, Scipion le Jeune, qui a été témoin de la ville de Carthage qui a brûlé en 146 avant Jésus-Christ. Et l'historien Polybe était là à côté de lui. Et la déclaration qu'il a faite à ce moment-là, Scipion, le jeune, le chef militaire romain, il a dit ceci: « Glorieux moment, mais j'ai le sinistre pressentiment qu'un jour, le même destin funeste s'abattra sur mon propre pays, sur l'Empire romain. » Il avait vu les empires tomber un après l'autre. Et il avait la sagesse de dire, c'est pas impossible que ça nous arrive à nous aussi. Et ça leur est arrivé aussi. Il a ajouté, car il en fut ainsi pour les empires d'Assyrie, des Mèdes et des Perses, les plus grands empires de leur temps. Pour lui, à son époque, c'était les plus grands empires qui avaient existé et qui étaient tombés. Et il dit, l'Empire romain va peut-être tomber aussi. Et il avait raison. L'Empire romain est tombé. Comme la dernière réapparition prochaine de l'Empire romain va tomber aussi. Allez dans Apocalypse 17. Apocalypse 17. On sait que l'Empire romain est tombé à ce moment-là, mais qu'il est réapparu à différentes occasions au cours de l'histoire. Mais il doit y avoir une dernière réapparition ou émergence de l'Empire romain à notre époque. Et ce sera le dernier empire humain méchant. Apocalypse 17, verset 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. La bête, c'est l'Empire romain ressuscité, et on voit déjà se dessiner à l'horizon le fait que les nations européennes vont donner leur autorité et leur puissance à l'Europe unie, que la Bible appelle la bête. C'est en train de se faire. Hitler avait essayé d'avoir cette dominance-là, mais par les armées, lors de la Deuxième Guerre mondiale, essayer d'assujettir les peuples pour être le maître du monde. Mais cette fois-ci, comme la Bible dit, ça va se passer différemment. Les 10 rois ou les 10 nations ou groupes de nations vont volontairement donner leur autorité et leur pouvoir à un homme, à un puissant central, à la bête. Et regardez le verset 13, « Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, à l'Europe unie. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. » Pourquoi ils vont combattre contre l'agneau et que l'agneau va les vaincre? Parce que l'agneau revient à ce moment-là sur la terre, tel que promis. Il vient établir son gouvernement, un empire qui, lui, ne sera jamais détruit. Mais les humains ne l'accepteront pas plus qu'ils l'ont accepté la première fois. La première fois qu'il est venu, ils l'ont tué. Et quand il va revenir, mais là, il revient en pleine gloire, ils vont refuser son retour. Mais ils sont écrasés. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles, nous aussi, nous sommes persévérants, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Un grand changement mondial s'en vient, l'établissement du royaume de Dieu. Et vous savez, il y a un facteur majeur dans l'histoire que les gens, que les historiens et la plupart des gens ont rejeté ou n'ont simplement pas compris. C'est le rôle du gouverneur de l'univers. Il est le gouverneur de l'univers et il a un plan et il intervient selon ce plan-là pour que les choses se réalisent. L'histoire a été, quand on regarde les faits et quand on regarde la prophétie biblique, l'histoire a été directement influencée et guidée par des interventions providentielles à des moments clés de l'histoire, voulues par Dieu. Et ça, c'est intéressant qu'on le voit parce que c'est tellement encourageant pour nous, parce qu'on voit qu'on sert un Dieu dont la puissance n'a pas de limite et qui ne laissera pas aller les choses à tout jamais. Jusqu'à ce que les humains s'entretuent tous. Il va mettre un terme à ça. Il a la puissance pour le faire. Il est intervenu au cours de l'histoire par des événements marquants, très clairs, pour que son plan s'accomplisse. Et les derniers éléments de son plan qui sont devant nous vont s'accomplir tel qu'il les a annoncés et il va intervenir. Regardez Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. Dieu le déclare lui-même dans sa Bible, que c'est lui qui est le grand patron. Et que ce qu'il déclare, que ce qu'il planifie, il l'accomplit. Il a la puissance pour le faire. Il a l'autorité pour le faire. Et en plus, ce qui est encourageant, c'est qu'il a l'amour pour le faire. Parce que quand il intervient comme un père de famille, c'est qu'il le fait par amour pour ses enfants. Et c'est toujours au mieux. Ésaïe 46, regardez le verset 9 et 10. C'est lui qui parle. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. » Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous rappelle des choses qui avaient été annoncées dans la Bible et qui se sont passées historiquement, qu'on peut prouver, et qui sont un grand encouragement. Et c'est pour ça que Dieu dit « Souvenez-vous des choses qui se sont passées dans les temps anciens. » Parce qu'il y a des grandes leçons pour nous là-dedans, des leçons d'encouragement, puis des leçons pour nous montrer que si on comprend ces choses-là, on doit aller plus loin et régler notre vie d'après ce que Dieu nous dit de faire pour vivre selon ses voies, pour observer ses lois, pour observer ses fêtes, pour développer son caractère. Je reviens à ça. Verset 9, il dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Voici le grand patron, le Dieu suprême. « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Il n'y a personne qui peut annoncer d'avance les choses comme il le fait et les faire s'accomplir. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Regardez le verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Et ce qui a été écrit dans la Bible, ça a été écrit il y a très longtemps pour des choses qui devaient arriver dans la suite et dont plusieurs se sont réalisées, qu'on peut voir dans l'histoire. Et d'autres sont en train de se réaliser. Et une grande partie va se réaliser très bientôt. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il a le pouvoir de faire ça. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Formidable. Et c'est pour ça qu'on est béni lorsque Dieu nous donne de comprendre sa parole et de comprendre qu'il nous appelle à changer, à vivre selon ses lois. Parce qu'on voit dès le premier chapitre du livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 1, vous irez voir, ça dit révélation de Jésus-Christ pour ses serviteurs, donc pas pour l'ensemble du monde pour l'instant, pour ceux que Dieu appelle. Et il dit au verset 3, « Heureux ceux qui lisent la prophétie, qui prennent garde et qui gardent ces paroles-là, car la fin est proche. » Et nous sommes de ceux qui pouvons comprendre ces choses-là et qui avons la responsabilité de l'annoncer au monde, parce que Dieu n'agit pas en cachette. Dieu annonce d'avance les choses à venir. Comme il a fait du temps de Noé. Noé a prêché pendant 100 ans les choses qui venaient. Dieu n'a pas pris les gens par surprise. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, lorsqu'on parle de chef d'État, il abaisse l'un et il élève l'autre. Vous pourrez aller voir, c'est écrit dans Psaume 75, verset 8. Psaume 75, verset 8, Dieu dit, il abaisse l'un et il élève l'autre, comme il a élevé Nebuchadnezzar et ensuite qui a rejeté son petit-fils. Et ensuite Cyrus, et ensuite les autres. Vous savez, Dieu contrôle les choses. Et Dieu oriente, il dirige, il ajuste les événements selon son calendrier, selon sa planification, selon son plan. Et c'est intéressant de voir que les faits historiques le prouvent clairement. Mais pas juste ça, je vais aller plus loin dans mon message. Parce qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui se sont rendus compte qu'il y avait une puissance supérieure qui agissait à certains moments donnés dans les événements. Pas des gens de l'Église, des chefs d'État qui ont dit « il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas à notre niveau de compréhension, là, qui nous dépasse ». C'est intéressant parce qu'en même temps, nous, ça nous montre que la main invisible de Dieu agit. Nous savons qu'il agit, nous comprenons. Les gens ne savent pas toujours que c'est lui, mais ils se demandent qu'est-ce qui se passe exactement. Et il y a des chefs d'État, dans des circonstances particulières, qui sont arrivés à cette même conclusion, qui disaient, en quelque sorte, il y a un être tout-puissant qui intervient dans les affaires du monde. Il y a un être tout-puissant qui intervient dans les affaires du monde. Winston Churchill est un de ceux-là. Winston Churchill était le premier ministre de l'Angleterre au moment de la Deuxième Guerre mondiale et a vécu des choses extraordinaires. Il a vécu des choses inouïes et il a réalisé certaines choses aussi. Il a prononcé un discours au Congrès des États-Unis le 26 décembre 1941. Et justement, il a souligné qu'il sentait clairement qu'il y avait une main puissante qui agissait dans l'histoire. Je vous cite ce qu'il a dit à ce moment-là, le 26 décembre 1941 aux États-Unis. « Celui-là doit avoir vraiment l'âme aveugle, qui ne voit pas qu'un grand dessein et une grande conception sont en train de s'accomplir ici-bas. » Je vous parle d'un chef d'État qui n'est pas membre d'Église, là, qui arrive à cette conclusion-là devant l'imminence des événements et devant ce qui se passe. Quelques mois plus tard, il a réitéré un peu le même discours, mais cette fois-ci en Angleterre. Il a dit « J'ai parfois le sentiment d'une intervention, le sentiment qu'une main guide et intervient dans les affaires du monde. » C'est fort, c'est puissant. Et il avait raison, mais c'est pas le seul. Il y a un homme d'État qui était impliqué dans la politique, un inventeur bien connu, un écrivain, Benjamin Franklin, qui est arrivé à exactement la même conclusion, j'ai trouvé, de ses déclarations. Il avait la même conviction. Et lors de l'Assemblée, la Convention constituante de Philadelphie pour les États-Unis en 1787, regardez ce qu'il a dit. « Plus je vis et plus je vois des preuves convaincantes que Dieu gouverne les affaires des hommes. » C'est fort. Si, et regardez comment il continue son examen. Il connaissait les textes bibliques. Il dit, « Si un moineau ne peut tomber par terre sans que Dieu le sache, » et là, il a fait référence à ce que dit Matthieu 10, verset 29. Il dit, « Si un moineau ne peut pas tomber à terre sans que Dieu le sache, serait-il probable qu'un empire puisse grandir ou tomber sans l'aide divine? » Wow! C'est un raisonnement puissant. Et pour nous, c'est tellement encourageant. C'est pas quelqu'un d'Église, là. Mais c'est quelqu'un qui a constaté par la force des événements et la force de ce qui arrive dans l'histoire du monde qu'il y a une main qui intervient régulièrement dans les affaires du monde, dans des occasions bien précises. Et il y a des preuves historiques de ça. Je vais vous en donner quelques-unes. Je vais me limiter à trois, probablement. Mais je vais vous donner des preuves historiques de ça, de la main invisible qui agit dans l'histoire. Il y a des circonstances étranges, inexplicables et miraculeuses qui surviennent, parfois à certains moments cruciaux de l'histoire des nations ou de l'histoire des empires. Et ça semble indiquer sans équivoque la présence d'une main qui guide, la main de Dieu. Exemple, en juillet 1588, je vous parle d'événements historiques, il y avait le roi d'Espagne qui était sur une lancée pour dominer le monde. Okay? Et il y avait une puissante armada. Il y avait une foule de bateaux très lourdement armés et il faisait la pluie pour le beau temps. Il était en train d'étendre sa domination. Philippe II d'Espagne. Alors, il a envoyé son invincible armada contre les Anglais. Après une semaine de combats, commandé du côté anglais par Francis Drake, l'armada a franchi la Manche et s'est installée à Calais, donc juste en face, de l'autre côté. Dans la nuit du 28 juillet, Drake a envoyé des bateaux en feu, à la dérive, au beau milieu de toute la flotte espagnole. Une bonne stratégie. Il a envoyé des bateaux en feu au milieu de la flotte, ce qui a poussé les Espagnols à fuir. Alors, ils ont décampé, ils ont levé l'ancre, ils sont allés vers le nord. Et Drake les a suivis pour compléter sa victoire. Ça allait bien jusqu'à un certain moment donné. Il y a eu des engagements très durs, mais à un moment donné, ils n'ont pas pu aller plus loin. Les Anglais n'ont pas pu aller plus loin. Vous savez pourquoi? Ils n'avaient plus de munitions. Ils poursuivaient un ennemi qui avait peur, qui se faisait tirer dessus et tout ça. Et à un moment donné, il n'y a plus de munitions. Vous faites quoi? L'ennemi va savoir que vous n'avez plus rien, vous n'êtes plus capable de rien faire. Main invisible dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu une tempête qui s'est levée à ce moment-là. Une tempête, ça vous dit quelque chose? On en voit de plus en plus des tempêtes de plus en plus grandes qui font des dommages et qui dérangent des choses. Il y a eu une tempête, l'histoire le dit, d'une force sans précédent qui s'est élevée et qui a poussé de nombreux navires espagnols sur les roches de l'Irlande et de l'Écosse. Et ils ont péri. Ils n'ont pas tous péri, il y a resté un certain nombre de bateaux, mais ils étaient plutôt mal en point. Et on dit que pendant des jours, il y a eu des débris qui se sont promenés autour et qui sont allés sur des côtes voisines. Et ils ont donc les Anglais ont échappé à ce désastre-là. Et les quelques bateaux espagnols qui ont survécu sont retournés en Espagne, mais n'étaient plus en ordre de fonctionner. Ça vous donne une idée. Et c'est intéressant, je vais plus loin. Parce que quand on regarde les faits historiques, en commémoration de cette défaite espagnole, la reine Élisabeth I, à ce moment-là, a fait frapper une médaille en argent portant l'inscription suivante. Dieu a soufflé et ils furent dispersés. Dieu a soufflé et ils furent dispersés. C'était impossible pour les Anglais de gagner. Et il y a eu un champ d'action de grâce qui a été fait aussi, parce qu'à ce moment-là, les gens remerciaient plus Dieu et étaient plus appréciatifs de l'existence d'un être suprême comme ça. Et on a fait un chant d'action de grâce où la reine Élisabeth disait dans ce chant-là, il fit lever les vents et les eaux ont dispersé mes ennemis. C'était dans le chant que la reine Élisabeth Ière a fait et a chanté elle-même. Deuxième épisode que je vous montre pour que vous voyez à quel point Dieu est puissant et comment il intervient. Pour le peuple français et pour l'Europe, où c'était pas le temps d'avoir ce genre de problème-là. Vous savez, les musulmans ont déjà envahi l'Europe. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Là, il y a une sorte d'envahissement par les migrants, par l'immigration et tout ça. Il y a plusieurs millions de musulmans qui sont déjà en Europe. Mais dans le passé, les armées musulmanes ont envahi l'Europe. Elles ont même déjà possédé l'Espagne. Il y a beaucoup de traces là encore aujourd'hui. Il avait conquis une partie de l'Italie déjà et il avançait dans d'autres pays. Et là, il avançait du côté de la France. Mais encore là, la main invisible dans l'histoire. Et vous allez voir comment ça s'est produit. Il arrive toutes sortes d'événements surprenants parfois qui changent le cours de l'histoire. Ça a changé le cours de l'histoire lorsque les musulmans ont attaqué en France. Ça a changé le cours de l'histoire en octobre 732. À la bataille de la ville de Poitiers. Ça a été décrit par Léopold von Ranke, qui est un historien allemand du 19e siècle, et qui déclare, lui, ça a été un des jalons les plus importants de l'histoire du monde. Il y a eu une grande victoire par un chef militaire du nom de Charles Martel, à ce moment-là, avec ses troupes. On les appelait les Francs, à ce moment-là. Victoire de Charles Martel et des Francs sur les envahisseurs sarrasins. Il les a arrêtés définitivement d'aller plus loin en Europe. Et ça a été quoi le tournant définitif de cette bataille-là? Parce que M. Martel n'était pas en voie de remporter la victoire, parce que les musulmans étaient extrêmement puissants. C'est qu'un jour, il y a eu une bataille très acharnée, mais il y a eu un tournant majeur qui s'est passé parce qu'il y a eu une fausse rumeur qui a circulé chez les musulmans. Alors, ils étaient en rangée de combat. Ils allaient pour entrer dans la cavalerie de Charles Martel. Et il y a eu une rumeur qui a circulé à l'effet que leur grand butin, ils avaient ramassé beaucoup de butins au cours de toute leur histoire, de toute leur avancée de vainqueurs. Et ça a circulé, la rumeur, qu'il y avait des Francs qui étaient allés par le côté, qui étaient en train de piller dans les tentes des musulmans à l'arrière du champ de bataille. Alors, il y a des escadrons complets qui ont tourné de côté pour aller protéger leur butin. Et les autres escadrons qui n'étaient pas au courant de ça ont pensé qu'ils étaient en train de se faire battre par les Francs de l'autre côté. Alors, eux aussi ont été pour partir. Et le chef musulman qui s'appelait à ce moment-là Abd al-Rahman a essayé de rassembler ses troupes, mais à ce moment-là, lui-même s'est fait tuer. Alors, voyez-vous, ça a été la fin de l'attaque musulmane en Europe. Ils ont plié bagages et ils sont partis. L'avenir de l'Europe était en jeu ce jour-là, mais elle a changé complètement sur une rumeur. Dieu est puissant. Il n'a pas besoin d'une grande armée. Il peut l'utiliser s'il veut. Il peut utiliser les éléments, mais il peut utiliser des choses aussi simples qu'une rumeur qui fait que tout change. Écoutez, on a des récits dans la Bible où des armées ennemies, à un moment donné, se sont entretués. Ils venaient pour attaquer Israël et Dieu a fait en sorte qu'ils s'entretuent plutôt que d'attaquer Israël dans certaines circonstances. La main invisible dans l'histoire. Formidable. Et Dieu va bientôt permettre un autre affrontement armé entre l'Europe unie et les musulmans. Ça se prépare. C'est sur le point de se produire. Allez dans Daniel chapitre 11, s'il vous plaît. Daniel chapitre 11. C'est fascinant quand on met ensemble ces morceaux de la prophétie et voir ce qui se passe autour de nous et ce qui s'en vient. Dieu nous donne la bénédiction de savoir ces choses-là d'avance. Daniel 11, donc, et lisons le verset 40 à 42. Au temps de la fin, le temps où nous sommes, le roi du Midi se heurtera contre lui. Le roi du Midi, c'est le regroupement des nations arabes qui sont au sud. Le roi du Midi. Je n'entrerai pas dans les détails, on a des explications dans nos brochures et dans le cours de Bible à ce sujet-là. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, contre l'Europe unie. Et le roi du Septentrion, c'est-à-dire le roi qui est au nord des pays musulmans, le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Et là, l'Europe unie, avec toute son armée, va descendre sur le Moyen-Orient, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Alors, on voit que l'Europe unie va descendre comme un feu violent sur l'Empire musulman qui sera créé bientôt, sur la Confédération ou la Fédération des pays musulmans qui seront bientôt formés. On n'a pas vu ça être fait encore, mais ça se prépare. Il y aura une union de pays musulmans qui va s'en prendre à l'Europe et qui va subir les foudres de l'Europe qui sont décrites ici. Un dernier exemple que je vous donne rapidement maintenant, c'est le fameux miracle de Dunkirk au moment de la Deuxième Guerre mondiale. M. Rod McNair a fait un superbe programme de télévision là-dessus. On peut le voir, ceux qui comprennent l'anglais, on peut le voir sur le site Internet aussi, durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'à un moment donné, durant la guerre, en 1940, les troupes anglaises étaient coincées en France, de l'autre côté de la Manche, et ils étaient à la merci de l'aviation allemande et de l'attaque allemande. Et à ce moment-là, il y a des mauvaises décisions qui ont été prises par le commandement allemand, et la température a joué un rôle extraordinaire aussi, parce que les cieux ne se sont pas dégagés et l'aviation allemande n'a pas décollé. Et ce même jour-là, anormalement, les eaux de la Manche, qui sont habituellement extrêmement agitées, sont devenues d'un calme extraordinaire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que tout ce qui pouvait flotter est parti de l'Angleterre et a pu traverser la Manche pour aller secourir les 300 000 soldats britanniques qui étaient coincés par l'armée allemande. S'ils avaient été attaqués, la guerre pouvait finir là. Parce que le rôle de l'Angleterre par la suite, avec cette force militaire, a joué un rôle prépondérant. Bien sûr, ensuite avec les États-Unis, mais il fallait que l'Angleterre soit là et qu'elle joue le rôle qu'elle a joué. Donc, au cours de la spectaculaire évacuation de plus de 300 000 hommes des troupes britanniques à Dunkirk, du 26 mai au 3 juin 1940, les eaux de la Manche furent inhabituellement calmes. Ça a permis même aux plus petites embarcations de traverser et aux plus grosses de traverser même plusieurs fois. Et on dit qu'il y a beaucoup de marins qui étaient familiers avec ces eaux extrêmement tumultueuses et dangereuses. Beaucoup de marins familiers avec ces parages ont fait l'observation de ce calme étrange, de ces heures anormales de calme dans ces eaux habituellement critiques. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait appelé ce sauvetage, le miracle de Dunkirk, parce que Dieu, encore là, est intervenu. Vous savez, quelles que soient les circonstances, des tournants cruciaux dans l'histoire, Dieu reste toujours totalement maître des événements. Il reste toujours totalement maître des événements. Allez dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Et on peut compter sur lui de façon personnelle pour répondre à nos prières, pour nous aider et faire en sorte qu'on puisse passer à travers les épreuves ou être capable d'avoir la force de les supporter. Daniel 2, ici on va voir ce qui est arrivé concernant le songe de Nebuchadnezzar. Daniel 2, versets 19 à 21. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Vous vous rappelez que Nebuchadnezzar, qui avait eu un songe bizarre, dont il ne se rappelait pas, voulait que quelqu'un lui explique. Ses sages, ses satrapes n'avaient pas pu lui expliquer, et il a demandé à Daniel, et Daniel, inspiré par Dieu, a pu lui expliquer. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, c'est à lui que revient la gloire. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Il est en charge, la main invisible dans l'histoire, « qui renverse et qui établit les rois. Il élève celui qui veut et il rabaisse celui qu'il veut enlever. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il le révèle à qui? À ses serviteurs, à ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Et ça les aide à se préparer comme nous aux grandes choses qui viennent. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Maintenant, allons voir plus précisément le songe en question qui définit les grands royaumes qui ont été dans l'histoire les uns après les autres, les quatre grands royaumes dont on a parlé tantôt. Daniel 2 et le verset 36. Là, ici, on voit Daniel qui donne l'explication du songe au roi. « Nous en donnerons l'explication devant le roi. » Vous pourrez aller voir plus en détail dans Daniel 7, si vous voulez, pour compléter votre étude. Verset 37 à 40. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des dieux t'a donné l'empire. » Voyez-vous, c'est Dieu qui permet à certains dirigeants d'arriver en poste. Parfois des bons dirigeants, parfois des méchants dirigeants, pour l'accomplissement de l'ensemble de son peuple. On n'a pas à critiquer ça. On a à admirer le Dieu puissant. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » C'était la première partie de la statue, représentant les quatre grands empires mondiaux qui allaient se succéder. Il y a eu d'autres empires dans le monde ailleurs, mais on parle ici des empires en relation avec Israël et avec la nation de Dieu. C'est ça. Et il dit après ça, verset 39, regardez, verset 39. « Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, donc le Cyrus, comme on a vu tantôt, Médo-Perse, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer met tout en pièces. » Alors ici, c'est l'Empire romain, dans ses diverses résurrections, dont la pire et la plus destructrice sera celle qui vient bientôt. Verset 44. Et regardez, après ces royaumes-là, à la fin, lorsque la dernière résurgence de l'Empire romain aura été éliminée, regardez, sera éliminée, c'est-à-dire, regardez le verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume, le royaume divin, qui ne sera jamais détruit. » Et qui ne passera point sous la domination d'un autre. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera à jamais. » Formidable! Et je vous donne en passant rapidement, lorsque la déclaration sera faite que ce royaume entrera en fonction bientôt, Apocalypse 11 et le verset 15, il est question de ce royaume-là ici. « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Ici, c'est l'autre empire qui va succéder à tous ces empires-là à jamais, et qui, lui, ne sera jamais détruit. Vous savez, il y a un tiers de la Bible qui est composé de prophéties, de choses annoncées d'avance. Il y a une certaine partie de ces choses-là qui sont arrivées. D'autres, comme j'ai mentionné, sont en train d'arriver. Et d'autres vont arriver très bientôt. Et les prophéties inspirées décrivent le cheminement des empires mondiaux par rapport à Israël. La précision que je viens de vous faire, ça décrit ces empires-là. Et l'histoire le prouve. Je vous donne une parenthèse en ce qui concerne Alexandre le Grand, par exemple. L'histoire a prouvé, ça a été annoncé d'avance, même en détail, que le royaume d'Alexandre le Grand allait être divisé en 4 parties. Ça a été écrit d'avance dans la prophétie. Ça vaut la peine. Daniel 7. Daniel chapitre 7. Et encore là, on voit la puissance de Dieu. Mais on voit que c'est sa main puissante qui intervient. Il avait annoncé longtemps d'avance que le royaume d'Alexandre le Grand, gréco-macédonien, allait, lui, être divisé en 4 avant d'être remplacé par l'Empire romain. Et ici, dans Daniel 7, c'est la vision de 4 animaux qui correspondent aux 4 empires dont je vous ai parlé. Les 4 animaux mentionnés ici correspondent à 4 empires successifs qui correspondent au rêve de Nébuchadnezzar. Daniel 7 et le verset 6. « Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, 4 directions. » Parce qu'après la mort d'Alexandre le Grand, son royaume a été divisé en 4, et ce sont ses 4 généraux qui ont pris charge des 4 parties de ce royaume-là. Et la domination lui fut donnée. Allez un peu plus loin. Daniel 8, verset 22. Daniel 8, verset 22. 8, verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, en parlant d'Alexandre le Grand, qui a été brisé en tant que chef de ce royaume-là. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations de l'Empire gréco-macédonien, mais qui n'auront pas autant de force. On peut comprendre, parce qu'un royaume divisé comme ça est moins fort que rassemblé. Alors, ça avait été écrit d'avance dans les prophéties de Dieu. Qu'est-ce qui allait arriver à Alexandre le Grand et qu'est-ce qui allait arriver à son royaume par la suite? Ces 4 généraux allaient se séparer 4 parties du royaume. Il y a 70 à 80 % de la prophétie qui reste à réaliser. C'est pas surprenant parce que les événements les plus marquants de l'histoire sont juste devant nous. Ils sont en train de commencer à se réaliser. Et vous savez, de toute évidence, nous vivons au temps de la fin. Nous vivons dans ce que la Bible appelle les derniers jours, dans les jours mauvais, juste avant le retour du Christ qui, lui, va heureusement, et on prie pour ça, mettre fin aux misères, aux souffrances, à la guerre humaine, à tous ces empires humains qui n'ont pas apporté la paix ni le bonheur. Et si vous remarquez, le moindrement, le monde autour de nous continue de changer de plus en plus et de changer le plus vite qu'on peut imaginer. On a de la misère à suivre même les événements sur la scène mondiale. Les choses vont tellement rapidement. Et dans le même sens, les valeurs morales qui ont été la norme au cours de l'histoire et jusqu'à récemment, au cours d'une grande partie, en tout cas, de l'histoire moderne, sont rejetées et tombent les unes après les autres. Ce qui était des valeurs morales qui étaient aimées, qui étaient appliquées, on les jette de côté, on se moque même des gens qui croient encore à ces valeurs-là. Je vous donne maintenant, avant de terminer, un petit passage de la lettre qu'ouvrière que M. Gerald Weston, l'évangéliste président de l'Église du Dieu vivant, a envoyé récemment aux couvriers et à nous. Je vous cite un passage par rapport à ce que je vous dis. Il dit ceci. « C'est dans des temps de chaos, et on peut le voir, c'est dans des temps de chaos que de puissants leaders populistes sont propulsés en avant-scène. » Vous savez, quand il y a tellement de bouleversements dans les nations, de choses incertaines, de mécontentement et tout ça, c'est à ce moment-là qu'il apparaît des leaders différents des leaders d'avant. Et ce n'est pas nécessairement pour le bien des citoyens. C'est dans des temps de chaos que de puissants leaders populistes sont propulsés en avant-scène. La prophétie biblique nous dit que dans les derniers jours apparaîtra en Europe un chef politique charismatique et un faux prophète, un chef religieux qui sera associé au premier et qui fera même des prodiges. Et ce qui va se passer à ce moment-là, ces deux hommes seront vus à cause du chaos de la société et des problèmes qui se répandent actuellement, ces deux hommes seront vus comme les sauveurs d'un monde devenu insensé. Comprenez-vous pourquoi la Bible nous dit que ces gens-là seront applaudis, admirés? Parce que les gens vont dire, enfin, quelqu'un de solide qui va nous apporter la paix et la sécurité. Mais la puissance spirituelle qui les soutiendra, on sait que, je fais une parenthèse, on sait que c'est Satan, le petit dieu de ce siècle, celui qui séduit toute la terre, mais la puissance spirituelle qui les soutiendra va inspirer la création, en fait, d'un nouveau régime totalitaire. Un peu comme dans le temps de l'Allemagne nazie. Un nouveau régime totalitaire. Ils vont même combattre contre le Christ à son retour, comme on a vu tantôt. Ils vont combattre contre le Christ à son retour. Alors que le Christ va venir pour faire cesser la rébellion humaine et apporter une paix durable. Fin de la citation. Nous, on a une œuvre à finir. Parce que Dieu a donné à ses serviteurs la responsabilité d'annoncer les choses qui viennent. Pas pour convertir le monde, absolument pas. C'est bien clair dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du monde à venir, d'un empire mondial qui ne finira jamais, mais qui est bien, qui, pour le bien de l'humanité, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pas pour convertir, pour servir de témoignage, pour avertir les nations. Et après, il dit, alors viendra la fin. C'est dans ce contexte-là que nous avons, en ces temps de la fin, la responsabilité d'annoncer ce qui vient. D'annoncer au monde, en tant que témoignage, la bonne nouvelle. Allez dans Zacharie, s'il vous plaît. Des versets très encourageants en terminant. Zacharie 14. J'aime beaucoup le livre de Zacharie. Zacharie 14 et... On peut lire le verset 3. « L'Éternel paraîtra, il annonce son retour, et il combattra ses nations, les nations qui vont être venues le combattre pour l'empêcher de venir établir son gouvernement sur la terre. Et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. » Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Très clairement annoncé comme prophétie et qui va bientôt se réaliser. Et ce ne serait pas surprenant, si nous sommes fidèles, que bon nombre d'entre nous puissions voir de nos yeux ces choses-là. Ça va être éclatant, ça va être des situations extraordinaires. Et regardez maintenant le verset 9 du même chapitre 14 de Zacharie. L'Éternel sera roi de toute la terre. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui sera en charge, le Christ. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nom de faux dieux. Ils sont annoncés maintenant partout dans toutes sortes de religions. Il y aura seulement le vrai Dieu et il y aura seulement son nom qui sera un nom de Dieu. C'est formidable. Tout le pays deviendra comme la plaine de Gibeah à Rimmon au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles. Et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Formidable. Encore une prophétie qui va se réaliser bientôt. Maintenant, allez plus loin. Zacharie, chapitre 8. Un superbe passage ici encore qui décrit la venue du Christ, noir sur blanc. Dans son plan, c'est de revenir à Jérusalem et d'établir son quartier général. C'est de là que l'enseignement mondial sera diffusé et c'est là que les serviteurs fidèles de Dieu habiteront pour travailler dans l'équipe du Christ, pour guérir les nations, pour les enseigner, pour les guider, pour les aider et pour refaçonner sur toute la face de la terre une culture entièrement nouvelle, la culture de Dieu, une culture de paix, de joie, où les familles seront en sécurité, où il y aura vraiment de l'abondance et de la paix. Zacharie 8, et regardez le verset 3, formidable. « Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion. » Et je veux habiter au milieu de Jérusalem. C'est là qu'il revient. On a vu tantôt, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers et il va habiter à Jérusalem. Ce sera son quartier général. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et dans le texte original, c'est ville de vérité. C'est que la vérité sortira de Jérusalem. Les vraies valeurs seront enseignées dans le monde à partir de Jérusalem, par l'équipe de serviteurs fidèles de Dieu. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel, montagne sainte, son gouvernement. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Formidable. Voici la puissance que Dieu va déployer et qui va le faire réaliser ces prophéties-là, très bientôt devant nous. Et le Christ, c'est lui, cette main invisible-là dans l'histoire. Et il se manifeste directement. Et il va venir lui-même et il établira un gouvernement mondial, celui qu'on attend depuis longtemps. Pour ceux qui sont appelés à l'Église depuis longtemps, on demande à Dieu depuis des années que son règne vienne. Et c'est encourageant parce que là, on voit que c'est tout proche. Et ça nous incite encore davantage à insister pour que Dieu active les choses et qu'il nous donne de terminer le travail qu'on a à faire pour que l'humanité soit libérée. Et vous savez, à ce moment-là, les êtres humains vont vraiment savoir qui est Dieu. Il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de doute pour personne. Actuellement, Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu appelle seulement ce que la Bible appelle un petit troupeau. Quelques-uns à ceux à qui il donne de comprendre. Et si ces personnes-là comprennent et se mettent à mettre en pratique les lois de Dieu, Dieu leur donne davantage de force pour comprendre encore davantage et être capable de changer. Sinon, Dieu appelle quelqu'un d'autre pour compléter son petit troupeau qui sera prêt au moment du retour de Christ. Mais quand le Christ va revenir, les êtres humains vont le voir et ils sauront qu'il est Dieu. Et il n'y aura pas d'autre nom que le sien. Un dernier verset, s'il vous plaît, dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. On va lire les versets 27 et 28. On a vu que le Christ va revenir à Jérusalem, il va y établir son quartier général. Et regardez versets 27 et 28, qu'est-ce qu'il dit ici? Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Il n'y aura plus aucun doute possible. Dieu est puissant. Et moi, je vous dis, soyons encouragés de voir à quel point il est intervenu dans l'histoire, qu'il nous en a informé d'avance, et à quel point il nous montre les choses qui viennent et qu'il nous encourage en nous disant qu'il va prendre soin de ses tout-petits qui vont être fidèles jusqu'au bout. Soyons encouragés par cette délivrance promise qui approche.